Ils s'affichent aussi bien en ville qu'à la campagne. On s'intéresse maintenant au phénomène des tags et des graffitis.
C'est une jolie promenade poétique.
Et sur le mur de l'église, des inscriptions pornographiques à l'encontre de Jésus.
C'est quelque chose de gratuit que les gens peuvent s'approprier.
Bah regardez, là, c'est pas beau, ça. C'est pas beau, c'est des phrases, il n'y a pas de graphisme, c'est pas beau.
Ce sont des inscriptions obscènes.
On arrête de percevoir les graffeurs comme des délinquants. On s'aperçoit que c'est de véritables artistes.
Bon, il faut finir bien leur plan que tels des braqueurs de banque, en fait. Hein.
C'est très inspirant parce que c'est divers, varié.
Mais symboliquement, c'est quelque chose de très fort et de grave, symboliquement.
Terrain Vague, une émission proposée par Laura Marie.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Terrain Vague. Aujourd'hui, j'ai pas un invité, mais deux. J'ai Laurent et Boris de Cercle Rouge. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour Laurent, merci de nous recevoir.
Avec plaisir. Salut Alice en régie. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à intervenir aussi Alice. Alors aujourd'hui, on va parler de Cercle Rouge. Pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce que c'est Cercle Rouge, comment c'est né, de quel constat vous êtes parti, Boris peut-être ?
Bien sûr, alors Cercle Rouge c'est né en 2015 à la suite d'une idée parce qu'à l'époque il y avait le crowdfunding, le financement participatif qui arrivait comme une vague et avec Laurent on s'est dit ce serait bien de créer une petite plateforme pour financer des projets artistiques et culturels.
Ah d'accord.
À Montpellier mais pas que finalement puisqu'on a eu des projets un petit peu partout en France. Ça a duré 2 ans, on a eu une douzaine de projets financés de 1200 euros pour le plus petit à 5000 euros pour le plus gros.
2 ans où vous êtes servi de la plateforme de crowdfunding pour pouvoir financer des projets.
C'est ça. Et pendant ces 2 ans, via cette plateforme, on ne connaissait pas grand monde à ce moment-là dans l'art et la culture à Montpellier. Mais ça nous a permis de creuser, de rencontrer plein de gens et de faire des connexions. Et ça a débouché pas très longtemps après sur Artstation, le projet des pubs qui remplacent...
De l'art qui remplace les pubs. Ok, donc crowdfunding pendant 2 ans. Et après ces 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé?
En fait, ça rapportait pas assez d'argent.
Ah.
C'est très intéressant, mais ça rapportait pas assez d'argent, du coup on a arrêté.
C'est le nerf de la guerre, on le sait.
Malheureusement, oui. Et on s'est transformé en boutique en ligne, où on vendait des affiches justement de Artstation.
D'accord.
Donc en 2018, elle est sortie la boutique. Et aujourd'hui, la boutique, elle a bien évolué et on distribue des marques de décoration.
Ok.
Donc, on s'est un petit peu éloigné de l'art, mais on reste dans le design et la déco.
Alors, si on fait un petit tour sur le site web de Cercle Rouge, on peut voir la variété d'œuvres et d'objets, je pense, que vous proposez au grand public. Comment vous sélectionnez les artistes que vous représentez sur ce site ?
Ouais, oui, là, c'est
sur le site.
C'est ta partie, Boris.
J'aurais pu développer sur le démarrage de Cercle Rouge, quand même, parce qu'il y a quand même d'autres choses à dire.
Vas-y, je t'en prie.
En fait, le crowdfunding, ça existait déjà sur la musique,
le cinéma,
l'édition.
Voilà. Nous, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un fossé important entre le mec qui a percé et qui vend en galerie et celui qui peint dans la rue.
Okay.
Au milieu de ça, il y a des milliers d'artistes qui essayent et qui cherchent à vivre de leur art et qui ont des difficultés. Pourquoi ? Parce que eux, c'est des artistes et pas forcément des entrepreneurs.
Ouais.
Ils n'ont pas le réseau ou les compétences pour y arriver. Nous, on s'est dit, voilà, on va pouvoir essayer d'apporter nos compétences, notre savoir-faire, notre énergie pour faire en sorte que les artistes puissent vivre de leur art. Donc, ça passe par faire des démarches pour eux, faire monter des projets, les accompagner. Et donc, voilà, ça a été très, très varié. Il y a eu... exemple,
il y a eu un book photo, voilà, de photos de B-Boy.
On a même donc financé un festival.
Un festival, le Wild Summer,
la première édition. Donc on s'était quand même pas mal bougé le cul. et donc voilà, le constat c'était ça, c'était de venir, on va dire, essayer de combler le fossé qui est entre celui qui est dans la rue, vandale entre guillemets, et celui qui est en galerie. Au milieu de ça, il y a des artistes qui doivent être aidés.
Qui sont entre les deux. Alors oui, on le sait. Enfin voilà, il y a les artistes qui veulent. Il y en a certains qui veulent absolument rentrer dans les galeries, mais qui ne savent pas comment. C'est vrai que c'est quelque chose d'un peu
c'est
particulier.
Voilà.
On ne sait pas si, en tant qu'artiste, on doit faire la démarche d'aller vers, ou est-ce que c'est le galeriste qui vient te chercher. Bon, ça sera le sujet d'un prochain épisode avec Nicolas Xavier. Alors, du coup, on revient sur ce site et la variété, la quantité d'artistes que vous représentez, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Comment vous les choisissez ? Quels sont vos critères, s'il y en a ?
Alors la plupart des artistes que l'on vend sur la boutique sont issus des opérations Art Station.
D'accord.
Donc en 2018, on en a eu. En 2016, on en a eu 12. Mm-hmm. En 2018, on en a eu 12 aussi, je crois. Donc ça fait 24.
Mm-hmm. C'est pas
pour,
mal.
Ouais. Et là, pour le coup, c'était. Il y avait des grands noms. La sélection, c'était une sélection plutôt nationale.
Okay.
Et on a eu des artistes qui ont une belle carrière, un beau nom, une cote, comme Ella et Peter, par exemple.
Mm-hmm. Le Valet, j'ai vu.
Le Valet, ouais. Astro, Madame, maintenant.
Ouais. Mm-hmm.
Donc ces artistes-là sont issus de l'opération Art Station. Et puis on les a convaincus parce que l'opération était particulière et que ça leur plaisait.
L'idée était géniale.
À l'époque.
L'idée était géniale.
Puisqu'ils ont touché 0 euros sur le truc et okay. que l'opération, on l'a financée par nos propres moyens et par le crowdfunding. Donc. Mm-hmm. À l'époque.
Okay. Bon, alors.
On va pouvoir y revenir.
Étant donné qu'on va peut-être parler de Art Station directement maintenant, parce qu'on l'entend beaucoup et voilà.
Art Station,
du coup. Mais vous pouvez. Vous vous associez, alors, parce que j'ai fait mes petites recherches, n'est-ce pas? Vous vous associez à la Blended Art Gallery mm-hmm. de Montpellier et vous lancez ce concept de Art Station qui, du coup, consiste à remplacer des affiches publicitaires par des œuvres d'art. On nous explique?
Ouais. Alors l'idée n'est pas née tout de suite. Au départ, on avait donc un mur qu'on avait trouvé. On avait réussi à obtenir un financement, un artiste. On avait déjà tout au quorum, tout prémâché à la mairie en préparant tout ce qu'il faut pour réussir à faire une fresque d'ampleur à Montpellier.
Okay.
Et on a eu un refus, étonnamment. Et sur un coup de... on peut parler...
Un coup de bluff,
un coup de colère. Non,
un coup de colère, carrément.
J'ai dit à Bobo, écoute, on n'arrive pas à obtenir ce projet, il n'y a pas de souci, si tu me fermes la porte, je vais passer par la fenêtre. Donc, le budget qu'on a, on va s'en servir pour acheter des 4x5 dans une avenue et on va mettre des œuvres d'art sur des panneaux publicitaires en grand format sur une avenue.
D'accord.
Et on va court-circuiter le truc comme ça.
Okay.
En faisant nos petites recherches, on s'est rendu compte qu'au sein d'une même avenue, il pouvait y avoir plusieurs annonceurs et c'était un petit peu... Un petit peu compliqué pour réussir à obtenir ça. Donc, bon, on laisse ça un peu en suspens et on digère le truc. Et puis un jour, après être allé boire un coup en ville, on se pose à la station du Quorum et on se regarde en disant, mais en fait, une station de tram, c'est une galerie.
Oui. Ah bah la visibilité là, 100% quoi.
Et là, on a un seul annonceur
qui
détient l'ensemble. Donc là, tout de suite, ça a fait tilt en se disant, mais en fait... Si on arrivait à remplacer la totalité de ces publicités par des œuvres d'art, ben ça aurait de la gueule, quoi. Et donc, de là, on a commencé vraiment à travailler dessus et à contacter les artistes, à faire des démarches pour voir comment est-ce qu'on pouvait le financer.
D'abord l'annonceur.
d'abord l'annonceur, effectivement.
Ça dépendait de lui et puis ça leur a vachement plu.
Voilà.
Parce que le directeur régional, donc de Claire Chanel, pour ne pas les citer, a kiffé l'idée, il kiffait l'art, donc...
D'accord. Ils ont suivi, ça lui posait totalement pas de problème.
Ben,
de
c'est délicat parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a des annonceurs qui payent à l'année.
Et eux, ils ont...
Leur système informatique n'était pas prévu pour. Donc ils ont galéré à le mettre en place pour privatiser toute la station et qu'on ait un maximum d'affiches publicitaires à notre disposition. Mais ils y sont arrivés et ça a
marché. Et puis je pense qu'ils ont compris que c'était aussi un moyen de redorer l'image peut-être des annonceurs publicitaires qui soient peut-être joués en se disant bon voilà,
peut-être
ça montre qu'on peut voir autre chose que de la pub en fait dans ces endroits-là. À un moment donné.
Oui, et puis on a toujours eu une démarche où on n'est pas des anti-pubs. La pub,
bien
il
sûr.
En faut, très bien. De là à ce qu'elle soit omniprésente constamment, partout, sur tous les supports, bon, là, il y a débat. Du coup, on s'est dit, bon, voilà, si on arrive à obtenir sur une période donnée le retrait partiel ou total de la publicité au profit d'œuvres d'art, ça a du sens.
Oh là là, génial concept.
Donc ça dure une semaine, en 2016, la première, et très vite, en fait, ça fait parler.
Bah oui.
Et on est contacté par un mec qui s'appelle Laurent Sanchez, qui à l'époque dirigeait Street Art Avenue, qui est un site qui publie des photos de street art, un assez gros site.
Mm-hmm.
Et ça lui plaît, et ensemble, on décide de rédiger une pétition. Sur change.org.
Pétition très ambitieuse.
Qui a obtenu 14 000 signatures, j'ai vu.
14 000 en une semaine, 10 jours.
Oui, parce que ça s'est fait très rapidement. Ouais. Il y a eu un espèce de buzz. Et elle était adressée à Valérie Pécresse en lui disant « On a fait ça à Montpellier, faisons-le à Paris, dans le métro.
Ah »
Faisons du métro parisien la plus grande galerie du monde. C'était très utopiste. On savait que c'était presque irréalisable.
Mais il faut se donner les moyens de ses ambitions, les gars.
Du coup, il y a la presse, les médias. Il y a eu un reportage d'Arte, il y a eu Combini, il y a eu 20 minutes, il y a eu Figaro. Ouais, ça fait du buzz.
Il y a eu des interviews, bien sûr.
Et à la fin, Valérie Pécresse nous a répondu et nous a dit on a déjà quelque chose comme ça en projet, circulez, il n'y a rien à voir.
Ah, alors, super.
C'est même allé jusque, je ne sais pas comment on appelle ça, mais...
au conseil municipal de Paris.
Paris.
Ah ouais.
Et donc, il y a une élue qui a défendu notre projet. Donc, on a vu au sein d'une espèce d'hémicycle comme ça, le nom Cercle Rouge qui a été sorti.
Oh ouais, ça a été filmé.
Et on a les images. Donc
et c'est, rien c'est pour quand ça, même... ça valait le coup quand même.
C'est un peu frustrant parce que sur ce conseil municipal, donc, c'est le dernier de l'année, ils valident le truc. Donc c'était porté par une conseillère municipale, Daniel Simonet. Donc la coalition de la gauche autour de Anne Hidalgo valide le truc et derrière, rien du tout.
Non.
Et puis pour parler de l'aspect politique, ça avait beaucoup plu parce que c'était pour une fois la convergence des deux. C'est-à-dire qu'il y a le privé,
l'afficheur,
qui est en accord avec une association qui, on va dire, n'est pas vraiment anti-pub, mais essaye de trouver des alternatives. Du coup, on va dire ce lien qui s'était créé entre les deux, ça avait beaucoup plu parce qu'il y a des mecs de droite, il y a des mecs de gauche, et ceux de droite, ils défendent...
Ça peut unir un peu tout le monde autour de quelque chose, d'un projet commun.
C'est très politique, c'est très politique.
Je me doute.
Pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, la pub, c'est 365 jours par an sur des panneaux. On pourrait très bien dire un mois dans l'année, le mois le plus creux, où il y a moins de pubs, moins de gens dans les rues. On laisse à des artistes locaux, nationaux, on fait découvrir des choses, on essaie d'en mettre pour tous les goûts. Nous, c'était ça, l'impulsion à la base.
Je peux même aller plus loin. C'est que pour ma part en tout cas mon rêve secret c'est que on puisse imposer, même si je sais que le terme n'est pas forcément aimé par mon confrère, une loi qui dit les gars 365 jours par an c'est terminé, vous avez une semaine de moins pour le même prix. C'est-à-dire que les annonceurs, ils payent le même prix. Au lieu d'avoir 365 jours, ils ont 358 jours. Et donc, vous êtes sur le domaine public, vous êtes sur l'espace public, ça ne vous appartient pas. Ça appartient au peuple. Donc, notre droit, c'est de dire, bon, une semaine par an, on enlève tout ça et on met de l'art, de l'expression libre. On peut aller très loin. À l'image de la fête de la musique, à l'image plein d'autres événements qui sont des événements annuels qui reviennent de façon récurrente, on pourrait essayer de le passer de façon vraiment politique.
Croise les doigts, hein.
Qu'on lâche rien.
Et du coup, parce qu'on a parlé de cette galerie d'art, donc Blended Art, pourquoi vous vous êtes associé à cette galerie?
On était complémentaires.
Ils avaient le réseau d'artistes qu'on n'avait pas.
D'accord, ok. Et vous avez le savoir-faire
En fait, l'idée, c'était nous. Et on avait la plateforme Cercle Rouge à l'époque qui était financement participatif. Et on ne pouvait pas
notre propre plateforme.
Donc il nous fallait une association pour le porter.
D'accord.
Et ça a vachement bien matché avec Tom et Claire.
D'accord.
Et très vite, à quatre, on arrive à le faire.
Donc c'est un concept qui a beaucoup plu à Montpellier et que vous avez renouvelé pendant quelques années, jusqu'en 2021.
Oui.
Voilà, je crois que c'est... Alors, j'ai vu les précédentes éditions, mais je pense, sans trop savoir, je n'étais pas encore dans le milieu, n'est-ce pas? Et j'ai vu l'édition de 2021. Est-ce qu'on peut dire qu'il va y avoir une édition en 2024 ou pas?
Oui. Monsieur le maire, si vous nous entendez.
Monsieur Delafosse, on s'adresse à vous.
On aimerait bien. On comptait sur le fait que Montpellier soit capitale européenne de la culture, mais apparemment, c'est râpé.
C'est râpé. Bravo à Bourges. Tant pis pour Montpellier.
Bravo à Bourges. Peut-être qu'on va le proposer à Bourges, je sais pas.
C'est vrai, vous pouvez exporter le concept.
Puisque Montpellier.
Clermont-Ferrand, ils nous avaient approché pour connaître un petit peu la recette, savoir comment on avait fait.
On espère que vous resterez à Montpellier pour ce projet et que la ville fera un petit pas vers vous pour renouveler l'expérience, parce que je pense que eux aussi, il y a eu une belle vidéo qui a été faite pour ça. C'est une très belle carte postale pour Montpellier, parce qu'on voit plein d'endroits. Pardon, vous les avez quand même dispersés un peu partout sur le territoire. On voit beaucoup d'endroits. Enfin, je pense que tout le monde est assez gagnant en fait.
Alors, on peut aussi parler de cette édition-là qui a été quand même forte en rebondissement. On a réussi à obtenir des panneaux. Si, Boris, on va en parler. Il me fait signe. Non, soyons pas polémiques. Nous, notre objectif, c'est de défendre les artistes, d'accord. Et il s'avère qu'il y a des panneaux qui ont été déroulants et certaines œuvres se sont retrouvées à côté de Tampax et Cochonou. Ça, c'est mal passé auprès des artistes et on le comprend tout à fait. Mais ce n'était pas les engagements qu'on avait auprès d'annonceurs. Nous, on avait panneaux fixes avec des œuvres d'art minimalistes, sans grand logo de mairie, juste l'œuvre. Et c'est compliqué parce que y a des annonceurs.
À notre décharge, s'il y a un artiste ou des artistes qui écoutent ça et qui nous détestent à cause de la station.
Je pense pas.
Il y a eu quelques loupés, mais il y avait 50 artistes, principalement des artistes locaux.
C'est énorme.
C'était imposé par la mairie.
Jours, on nous a laissé 15 jours pour faire ça. Ou 3
semaines. Ouais, voilà, c'était fait dans l'urgence. Et JC Déco, il faut savoir, donc c'était pas Clear Channel pour le coup, c'était JC Déco qui avait mis à disposition son réseau, qui, en fait, ils nous ont mis à disposition les panneaux qu'ils mettent à disposition de la ville. Pour la communication de la ville, pour des événements culturels.
Okay.
Ils n'ont pas du tout joué le jeu, JC Déco. C'est-à-dire qu'on leur a dit de faire ça,
eux
ils l'ont fait.
Les pinceaux, vraiment,
ils nous ont
dit non, et lui il envoie les
masques, ça y est.
Ah non, mais oui.
Ne nous fâchons pas avec JC Déco.
Non, je ne veux pas fâcher JC Déco, mais c'est un fait. Ils l'ont pris un peu par-dessus la jambe et du coup, on a galéré à avoir certaines infos. Il y a des trucs qu'on n'a pas pu faire.
On n'a pas eu le positionnement des panneaux, donc on ne pouvait pas faire un parcours pour que les gens puissent...
Oui.
Ils étaient beaucoup trop clairsemés, éparpillés. Même nous qui avons fait l'événement, on n'a pas pu voir la totalité des panneaux. J'ai pris mon scooter, j'ai tourné partout dans la ville. Il y en a certains que je n'ai pas vus.
Alors après, bon, c'est vrai que c'est dommage parce qu'un plan, avec, une carte avec un parcours, ça aurait été génial,
fou,
c'est
fou,
sûr. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert, je ne sais pas, tu rentres du boulot, tu es dans ta voiture, dans un bouteille, et tu t'aperçois qu'il y a une œuvre en fait sur un 4x3 plutôt qu'une pub pour Cochonou, comme tu dis, c'est toujours plus cool, même si toi tu l'as pas
ça
vu.
Ça existe encore, Cochonou. Mais...
ça existe
oui,
encore.
Oui, oui.
Mais le fait que ce soit parsemé, à la limite, c'est dommage pour vous, mais je trouve que c'est plutôt cool parce que ça s'est déployé sur
Alors après réflexion, si le concept doit être refait, je pense qu'il vaut mieux le centraliser dans un lieu où on a l'ensemble des œuvres, je pense.
Oh ben là, la dernière idée, c'était de refaire sur les stations de tram.
Ouais.
Oui,
et de faire sur plusieurs stations.
De le faire sur plusieurs stations. Alors, avec un parcours.
Pareil.
Une station, un artiste.
Exactement. Une station, un artiste.
La station soit renommée.
Le nom de la station, voilà.
Ah ouais.
Elle est renommée au nom de l'artiste, ça aurait de la gueule.
Ça aurait de la gueule. Bon, après, le problème, c'est que de faire un projet en 15 jours, c'est jamais l'idéal. Mais
pour aussi la petite anecdote, on a tapé à la porte de la mairie, ensuite on a essayé de gratter à la fenêtre, on a fait toutes les entrées possibles, et bon, pas de réponse. Et puis d'un seul coup, ça s'est débloqué en nous disant, bon voilà, on n'a pas d'argent à vous donner, mais on a 100 panneaux. On veut la parité et on veut que ça soit à telle date.
Eh oui.
Et quand on a regardé la date, j'ai dit, non, c'est pas possible. Et Boris
lui, il a dit, on va le faire.
Oui, on va le faire.
Voilà. Bien joué, Boris.
Chapeau. Merci, alors qu'habituellement, c'est plutôt lui conservateur et moi qui m'emballe un peu. Mais là, pour le coup, c'est lui qui a dit on y va. Et on y est allé et on a réussi. Non, ça a été un challenge.
On les avait, c'était après le Covid en plus. Donc,
oui.
Voilà,
ouais.
Il y avait de quoi.
C'était, pour clôturer le sujet Art Station, c'était une très belle édition. 50 artistes, c'est énorme.
Je m'en rends pas compte. Mais
nous, par exemple, chez Line Up, on a travaillé avec un peu plus de 50 artistes. Sur des projets très variés. Donc,
Au total.
Donc, en plusieurs années d'existence, bon, ça, c'est pas comparable parce que on n'est pas. Enfin, nous, c'est un artiste sur un projet ou deux, trois. Mais c'est énorme. Quand je vois défiler une page avec 50 noms qui s'affichent, c'est énorme.
C'est pas une
mince
affaire,
rien que pour ça, bravo les gars.
Alors, juste une petite dernière chose
vas-y.
Auquel je tiens, c'est que donc, ces 50 artistes ont tous été payés. 100 euros, c'est pas grand chose, mais on a fait une campagne de financement participatif où on vendait les œuvres de chacun, enfin on pré-vendait les œuvres de chacun, et l'argent qui était récolté, la cagnotte, elle a été répartie équitablement entre tous les artistes, même si chaque artiste n'a pas vendu, et que c'est les plus gros qu'on.
Oui, certains ont tiré la locomotive, mais
dont Franck,
ça, c'est cool.
qui était dans la sélection.
Franck Noto, qui forcément, voilà, une fois de plus dans un épisode de Terrain Vague, on parle de Franck Noto. Je crois que ça arrive à chaque fois.
Forcément.
Alors, du coup, on a parlé de Art Station, mais on va aussi parler des battles, hein? Parce que ça, c'est quand même un événement, c'est assez foufou.
C'est
alors
récent,
bon, j'ai continué mes recherches sur le site de Cercle Rouge. C'était un concept qui existait à Montréal, notamment.
Effectivement.
Et que vous êtes approprié pour le faire ici. Ces battles, elles se déroulent au Circus. Comment ça se passe?
Il y a toujours des choses à dire là aussi. On ne s'est pas vraiment approprié d'un seul coup.
Il nous reste 10 minutes, par contre.
C'est bien de finir sur les battles.
C'est cool.
Bah, la finale, la dernière finale, elle était vraiment cool. Il y a eu du monde, on a fait sold out.
Le public, c'est incroyable. Franchement, moi, je regarde une partie du temps les œuvres et l'autre partie du temps, je regarde les gens. Ils sont tous beaux, ils sont incroyables.
Ouais, les gens sont beaux, ils sont heureux. Et les artistes aussi, ils kiffent.
Ouais, c'est quand même un événement.
Tout le monde,
je trouve. Alors, on va replacer un petit peu comment ce concept, vous l'avez découvert. Comment ça s'est passé? Pourquoi vous vous êtes dit...
On peut parler de, du début, 2016, c'était une grande année,
2016. Ah oui, décidément.
J'ai un pote qui revient de Montréal et qui me dit, ouais, je suis allé dans une soirée, ça se passe comme ça, ça s'appelle Art Battle. Alors c'était sur 20 minutes et c'était beaucoup plus d'artistes, une dizaine. Et il y avait une espèce de compétition sur la soirée avec des qualifs et une finale à la fin. Et les gens pouvaient acheter les tableaux avec des enchères silencieuses, ils mettaient des petits papiers avec un prix et... Et c'était qui gagnait, il repartait avec la toile. Donc nous, on a pris cette idée qu'on trouvait cool, l'idée du battle, puisque le battle, dans la culture hip-hop, c'est central. Il y a des battles surtout de danse, mais aussi de DJ, de beatbox, de rap. C'est vraiment culture hip-hop. Et on se disait que c'était pas mal de l'appliquer à l'art, à l'art et plutôt au graffiti à la base dans notre idée. Et à l'époque, on travaillait avec une association étudiante qui s'appelait Waven, qui était un groupe de jeunes ultra motivés, ultra efficaces. Et on leur parle de l'idée et ils accrochent et on trouve très vite le Circus comme bar pour nous accueillir. Puisque plus grand bar du centre-ville.
Et c'est ça.
Fallait que ce soit en centre-ville.
Voilà, j'allais dire pourquoi le Circus, mais effectivement, c'est grand.
Son emplacement,
très fréquenté,
sa taille
voilà,
et les
c'est...
rapports humains qu'on a eu tout de suite avec
c'était
eux.
C'était une rencontre.
Ils ont fait confiance.
Ils avaient un intérêt à développer leur soirée de jeudi, puisque le jeudi soir, c'est plutôt calme au Circus.
Alors que c'est soirée étudiante, normalement, le jeudi soir.
Ouais, normalement, c'est l'heure des étudiants. Et on a commencé à faire la première saison sur un an et demi. Parce qu'on en faisait une tous les 2-3 mois, et puis on s'arrêtait l'été. Donc première finale gagnée par Arkane, qui avait fait une toile magnifique. Et puis après, deuxième saison, on enchaîne, on a toujours 4 nouveaux artistes à chaque fois.
Alors justement, pour les gens qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est, en quoi ça consiste la battle, Laurent ?
En quelques mots, de façon très simple, 4 artistes, une toile de 1 mètre carré, et ils doivent faire une perf en 60 minutes.
Sur un thème imposé ?
Pas de thème imposé,
de thème
c'est déjà assez compliqué pour faire une toile aussi rapidement. Je pense que la plupart des artistes n'avaient jamais réalisé une toile aussi vite avant de venir au battle. Donc on met un DJ. Alors au départ, on faisait des premières parties, il y avait des beatboxers, il y avait des... mais bon, après, c'est du boulot. Donc...
c'est ça.
Et donc on met, il y a un DJ qui met le feu,
DJ Bastos.
notre speakerine officielle, Mélissa, qu'on salue, et donc voilà, ils font une perf. Donc l'entrée c'est 3 euros, donc autant te dire que c'est rien du tout. On t'offre un petit ticket sur lequel tu as le droit de mettre ton nom, ton prénom et un numéro de téléphone. En face de chaque œuvre d'artiste, tu as une petite boîte avec le nom de l'artiste. Une fois que tu as vu le battle, tu viens voter pour l'artiste de ton choix.
Que tu as préféré.
Maître Capello ici présent...
avec ses collègues,
la main presque innocente, comptabilise les voix. Celui qui a le plus de voix remporte le battle et gagne 300 euros.
500 pour la finale.
Et ça se passe devant le public, hein, parce que du coup, c'est sur une petite scène estrade du Circus.
Exactement.
En musique, et il y a
les gens. Collés les uns aux autres,
les gens sont assis. On est collés serrés et on regarde les artistes en pleine perf pendant une heure.
Et donc, une fois qu'on a déterminé le gagnant, on tire au sort dans chaque boîte un ticket. D'un participant qui a voté pour l'artiste de son choix et qui remporte la toile qu'il a vue réaliser sous ses yeux en direct. Donc, pour 3 balles,
tu repars avec une toile.
Donc, si l'offre n'est pas irrésistible, je ne peux pas te dire.
Elle est irrésistible vu le monde que vous attirez chaque fois.
Maintenant, on a déterminé que c'était 200 tickets. Et après, c'est sold out.
Ouais,
c'est
parce qu'après, la capacité du bar,
il y a
200 personnes.
C'est désagréable pour les gens, il fait trop chaud, on est serré, donc c'est 200 personnes.
Et donc là, on a eu la finale, c'était quand ? C'était il y a un mois ?
Oui.
Un peu moins d'un mois, et c'est Oscour qui a gagné. Il y a eu un niveau vraiment...
Ah, le niveau était incroyable.
De folie, les quatre artistes ont vraiment bien performé.
C'était ouf.
Ils l'avaient tous fait une fois, pour certains deux fois, donc ils savaient comment ça se passait. Donc je suppose qu'ils sont entraînés aussi chez eux. Enfin, ça devient vraiment une discipline à part entière.
Et est-ce que c'est une battle à part entière, ou est-ce que c'est aussi des quarts de finale, etc., avec une finale ou
Une ligue, non.
un championnat.
On pourrait, mais il faudrait que ce soit dans plusieurs villes ou plusieurs régions.
Ça serait beau, ça.
On arrive à la fin.
Non, il nous reste 5 minutes.
Ça va vite.
Trop vite.
Vous avez vu, je vous avais dit que ça allait
ça
vite.
Défile.
C'est quand la prochaine battle, du coup ?
Février 2024, a priori.
Putain, c'est loin. Ah non, février. Là. Ah oui, ça va.
Février 2024,
parce
ça va.
Parce que des fois, ils me calent des battles 4 mois après. Hein. J'en peux plus.
il faut caler le planning avant.
Au Circus, février 2024.
Au Circus, toujours. Quels sont les prochains projets de Cercle Rouge, hormis la battle et potentiellement Artstation qui revient en 2024 ?
Pour ma part, voilà, j'aimerais qu'on continue à développer la boutique, qu'on puisse étoffer notre catalogue et rentrer des nouveaux artistes.
Okay.
Donc, on s'adresse également aux artistes qui souhaitent collaborer avec nous.
Tout à fait.
On a des compétences complémentaires.
On commence à être rodé maintenant.
On commence à être rodé, on sait faire des vidéos, des interviews, des photos. Bobo, il gère le site. Non, mais on est quand même assez complet.
Oui, je trouve que vous gérez ça très bien.
Faire des battles une institution à Montpellier et continuer à le développer toujours plus. Et refaire la station de façon...
Ouais, ça c'est ce qu'on on croise les doigts pour
de façon pérenne.
Vous avez combien d'artistes là sur le site? Vous savez à peu près?
À vue de nez, je dirais 30, 40, 50, je sais pas. Non, parce qu'il y a eu le concours t-shirt aussi pendant le confinement, donc ça a rajouté
ça,
des artistes.
Ça c'était une pure idée
aussi. Plus des designers.
Et oui, c'est vrai que pendant le confinement, il fallait se réinventer parce que plus de battle.
C'était dur. Ouais.
Et on essaye de trouver des concepts innovants et de faire des choses un petit peu différentes de ce qu'on peut voir habituellement. C'est notre marque de fabrique.
On a fait des super rencontres, justement, ça a été Game Changer 2020 pour nous.
Ah, donc
justement la boutique, le succès de la boutique là récent, c'est
donc
grâce
comme quoi il y en a avec le confinement, ils se sont ils se sont réinventés.
Ouais. Sans confinement, c'est pareil pour moi.
On est en mode survie depuis tellement longtemps que
ça
s'accroche
à tout
ce qu'on peut.
Ah mais quand on kiffe ce qu'on fait après, il y a toujours les idées. étant donné que c'est une émission que j'anime avec ma casquette de chargée de com line-up, la petite question que j'aime bien poser à la fin, c'est: quel est le regard que vous portez sur line-up, sur l'activité de l'asso, sur la place qu'on a à Montpellier?
Tu veux toucher un mot? Moi
j'ai des choses à dire. C'est cool.
moi au-delà
c'est le numéro 1 non dans l'organisation de projet.
Je sais pas numéro 1 mais
moi au-delà de l'aspect on va dire des événements qu'ils font, moi c'est l'aspect humain qui m'intéresse. Et je prends énormément de plaisir à venir chez Line-Up. Parfois le vendredi après-midi, je prends mon agenda, je raye l'après-midi et je vais passer du temps avec Franck, voir Kenny, voir les artistes, et je suis comme un enfant là-bas. Je me trouve vraiment je suis super heureux parce que voilà, il y a des artistes, il y a de l'énergie, il y a plein de conversations hyper intéressantes, et c'est vraiment pour moi un moment de joie quand je vais là-bas. Et je trouve que c'est hyper important pour la ville de Montpellier d'avoir une asso comme Line-Up qui se bouge, qui encourage les artistes, qui fait d'autres choses que ce que nous on peut faire. Donc on est hyper complémentaires aussi.
Ce qu'on dit toujours, il y a de la place pour tout le
monde.
Mais
bien sûr, mais
on n'est pas là
fois,
pour se marcher sur les pieds. Ce que vous faites, vous, on ne le fait pas nous.
Et puis Montpellier continue à grandir. Dans quelques décennies, on sera Barcelone et il faudra du monde comme nous pour réussir à faire tout ce qu'il y aura à faire. C'est un lieu plein d'énergie. Moi, les ateliers là-bas, je.
Bientôt, on va changer de lieu.
Oui, je suis au courant.
Non, mais je me permets de le dire parce que voilà, on y arrive.
C'est
on
officiel,
y arrive.
Là, ça y est.
Pas complètement, mais ça devrait l'être bientôt. Et on espère que Cercle Rouge, mettra sa petite graine dans ce nouveau lieu. Et peut-être viendra faire une battle une fois de temps en temps.
Ah, tu me tends des perches.
Par exemple, je sais pas, je parle
alors,
comme ça.
Je profite aussi pour toucher un petit mot pour dire que donc Artstation, c'est une association et que toutes les énergies, les gens qui sont motivés, qui ont envie de voir un peu comment ça se passe dans l'arrière-boutique, qui veulent participer à des événements, qui veulent donner de la force, sont les bienvenus. Ils peuvent nous contacter via Insta et venir vers nous pour essayer de collaborer.
On lance un appel.
C'est important. Mais
à toutes sortes de personnes qui
sont intéressées.
C'est
une aventure, donc c'est toujours kiffant de vivre des choses.
Et puis, c'est toujours intéressant de voir, comme tu dis, comment ça se passe de l'intérieur.
Comment on monte un projet d'une idée dans un garage.
Exactement, jusqu'à la concrétisation.
Exactement, ça c'est kiffant.
Ce serait quand même carrément cool que ce soit un artiste par...
ça t'a plus simple.
Ça moi j'ai kiffé.
Mais là, il faut le soutien de la mairie de ouf. Tu peux pas faire ça
sans la mairie.
Ou alors tu
compliqué.
Fais ça que au courant, mais.
Non, mais sinon, il faudrait un financement participatif qui rapporte 30 000 euros. Ça y est, c'est plus un peu passé.
Montpellier a les moyens.
La vague est un peu retombée du crowdfunding.
Non, c'est aux institutions se rendre compte de l'impact que ça peut avoir et de jouer le jeu, quoi. Nous, on veut bien se décarcasser, mais il faut qu'il.
On va leur représenter un dossier pour 2024.
Ouais, voilà. Et on dit, ville de Montpellier, gare à toi.
On est là
et c'est surtout que on veut ce projet, donc merci de soutenir Cercle Rouge. Merci messieurs d'être venus au micro de Terrain Vague. Merci Alice.
Merci Alice. Merci
et Alice. À bientôt pour de nouvelles aventures en Terrain Vague.
Ils s'affichent aussi bien en ville qu'à la campagne. On s'intéresse maintenant au phénomène des tags et des graffitis.
C'est une jolie promenade poétique.
Et sur le mur de l'église, des inscriptions pornographiques à l'encontre de Jésus.
C'est quelque chose de gratuit que les gens peuvent s'approprier.
Regardez, là, c'est pas beau, ça. C'est pas beau, c'est des phrases, il n'y a pas de graphisme, c'est pas beau.
Ce sont des inscriptions obscènes.
On arrête de percevoir les graffeurs comme des délinquants. On s'aperçoit que c'est des véritables artistes.
Bon, ils peaufinent bien leur plan que tels des braqueurs de banque, en fait. Hein.
C'est très inspirant parce que c'est divers, varié.
Mais symboliquement, c'est quelque chose de très fort et de grave, symboliquement.
Terrain Vague, une émission proposée par Laura Marie.